cela va prendre un an avant que ce départ soit effectif. Est-ce qu'un pays comme le Sénégal, comme le Nigeria, comme le Ghana, est-ce qu'ils peuvent toujours jouer le rôle d'un pont, en fait, entre ces blocs régionaux et ces pays qui les ont quittés?
Mais Monsieur Kodjo, selon vous, comment se comparent les pays du Sahel touchés par l'instabilité politique et les coups d'État fréquents avec les démocraties stables comme celle du Sénégal, du Ghana et du Nigeria?
Alors, la comparaison, à mon avis, elle est assez délicate. Parce que les régimes sahéliens sont des régimes de fait. Ce sont des régimes de transition. Et ils sont le résultat du mal fonctionnement du système qui les a précédés. Et donc, au Ghana, au Nigeria, au Sénégal, là encore, le système tient, en tout cas, à la date d'aujourd'hui. En général, moi, je remets en cause les systèmes que nous avons. Et donc, qu'ils soient au Sénégal, au Ghana, au Nigeria, prenons l'exemple du Sénégal, il a survécu. À quel coût? Il y a beaucoup de jeunes qui sont morts. Mm. Et quand nous avons tendance à oublier ça. Donc le système sénégalais a survécu à quel coût? Il faut se le demander. Et s'il n'y avait pas eu ce petit déclic de dernière minute, où serait le Sénégal aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que nous voulons pour le reste de l'Afrique? Qu'à chaque cycle électoral, qu'on soit si près du désastre? Et donc c'est la question fondamentale quand moi je compare les deux camps, si vous voulez. À mon avis, le Niger, le Burkina, le Mali, la Guinée, le Tchad, le Gabon, tous ces pays ont raté l'opportunité d'ancrer quelque chose de solide. Je parlais du système. Si le système s'effondre, c'est qu'il n'est pas solide. Et donc, il faut prendre le temps de replanter un système assez solide. Et nous ne le faisons pas souvent.
Et donc, vous voulez parler des institutions?
Les institutions. Quand vous regardez depuis les indépendances, moi je les appelle les régimes d'hommes forts. C'est ce que nous avons dans nos pays, en Afrique. Ce sont des régimes d'hommes forts. Qui ont survécu, quand il y a coup d'État, on remet en fait le même système, en fait. Et un temps après, il retombe, il rechute. Et donc, il faut repenser le système. Et c'est là, je vous parlais tantôt de concentratie. C'est un système repensé. Où, en fait, nous faisons en sorte que si le Mali avait pris le temps, le Burkina Faso avait pris le temps de mobiliser l'ensemble de leur population et la communauté internationale autour d'une transition pour dire nous avons des problèmes profonds, nous voulons prendre le temps ensemble d'y réfléchir, ensemble de trouver des solutions et de mettre en place un système beaucoup plus solide que celui qu'on avait avant. Vous auriez réussi, vous l'avez fait en 2012 au Mali, en 2014 au Burkina Faso, on ne serait peut-être pas là où on est aujourd'hui.
C'est ce que disait l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, qu'il faut avoir des institutions fortes.
Voilà, sauf que beaucoup de gens n'ont pas encore pris le temps de penser c'est quoi cette institution ou ces institutions fortes, ça ressemble à quoi exactement? Ce sont les régimes présidentiels où nous allons aux élections, on donne les pouvoirs à un président, il décide de tout. Est-ce que c'est ça qu'il nous faut comme système?
Oui, vous parlez des hommes forts, vous êtes forts lorsque vous êtes encore au pouvoir ou toujours au pouvoir, n'est-ce pas? Monsieur Cissé, concernant l'avenir de la gouvernance au Sahel, quel modèle pourriez-vous proposer dans la région? Le retrait des grands ensembles régionaux et internationaux est-il une solution? Au-delà des rivalités entre Russes et Occidentaux ou des discours souverainistes, quels sont les principaux problèmes à résoudre au Sahel et qui doit-on et à qui doit-on attribuer la responsabilité ou demander des comptes?
Tout d'abord, je crois qu'il faut s'éloigner un tout petit peu du contenu normatif, c'est-à-dire comme si ça devrait être comme cela et une solution est parachutée du dehors. Et généralement, ça prend la forme d'une conditionnalité électorale. Ces élections, c'est une normalité qui aide. Le contenu, quand il est juste, il aidera beaucoup plus que la conditionnalité électorale. Faire des élections, il faut que ça ait un sens. Alors, la deuxième chose, c'est que pour la gouvernance, il faut l'approcher en termes de comment assurer le bien-être du plus grand nombre. Comment rendre des services, surtout les services publics, aux gens? Et quelles sont les modalités de cette mise en application, de venir en aide à ces gens-là? Et je vais parler un peu de métaphore. Je vais vous parler, par exemple, j'ai entendu l'autre jour parler de les quatre prisons du pouvoir. Quand les chefs d'État africains viennent au pouvoir à travers les élections, en général, ils sont otages, un, des commerçants qui ont financé leur campagne. Deuxièmement, ils sont otages des militants qui étaient dans leur parti. Troisièmement, ils sont militants des fonctionnaires de l'État. Et quatrièmement, ils sont otages des bailleurs de fonds. Donc la gouvernance demande à ce qu'on regarde tous ces quatre casiers afin de le rendre beaucoup plus, disons, utile aux populations africaines. Et l'utilité, ça dépend d'abord de l'appropriation. Il faut que ce soit africain. Il faut qu'il y ait le moins d'ingérence possible. Il faut que les gens puissent avoir la latitude de désigner leurs gouvernants. Et il faut qu'ils puissent mettre le contenu dans le programme même de gouvernance. Donc voilà un certain nombre de choses. Alors vous avez parlé aussi des Russes et autres. Vous savez, alors c'est très bon de dire que les Africains doivent être souverains, mais il faut avoir les moyens de sa politique. Quand nous voyons au point de départ, nous avons des pays par exemple avec lesquels nous coopérions. Je citerai la France, je citerai les pays occidentaux, qui n'ont pas pu assurer la sécurité. Et d'ailleurs, il y a certains de nos pays du Sahel qui ont défini des griefs très clairs vis-à-vis de ces pays-là. Donc c'est tout à fait légitime que ces pays-là puissent avoir des appuis qui puissent les aider effectivement à assurer leur souveraineté et être en commande du destin de leur pays. C'est en ce sens que la coopération avec la Russie est salutaire. Salutaire pour nos pays. Pourquoi? Parce que les pays occidentaux s'arriment, disons, à des groupes qui ont des pouvoirs très disproportionnés, des forces très disproportionnées par rapport au fonctionnement normal des États. Et ces États-là, pour faire la balance, la coopération avec la Russie est bienvenue. Cependant, c'est juste un moyen de regagner la souveraineté. Mais il faut pouvoir aussi s'en rendre indépendant à terme issu et pouvoir mettre en place des programmes crédibles de développement. Donc voilà, et ensuite, un dernier point pour la gouvernance, une fois qu'on aura mis de côté, disons, l'obligation d'aller aux élections sans que les gens aient le temps de se concerter à l'intérieur des pays.
Permettez-moi d'y revenir tout à l'heure. Nous dirigeons maintenant vers Dakar, au Sénégal, notre correspondant Ouhani a tendu son micro à quelques contribuables sénégalais pour recueillir leurs avis suivants.
On a souvent tendance à dire que l'Afrique est une terre hospitalière, l'Afrique est une terre humide. Donc je pense que donc tous les pays, y compris aussi l'armée, entre autres, doivent collaborer pour mettre sur pied peut-être des stratégies pour pouvoir ne pas, peut-être ils peuvent ne pas donc arrêter systématiquement donc ces guerres-là qui sévissent et qui ne cessent de faire et de refaire surface, mais essayer de trouver donc un compromis, un terrain d'entente, et sur ce terrain d'entente, peut-être qu'ils pourront trouver des accords qui pourraient peut-être amener la stabilité dans ces pays-là pour qu'en tout cas ces habitants puissent vivre tranquillement et comme ils se doivent, donc dépendant de leur semblable.
Ce qu'ils vont faire pour lutter contre le terrorisme, c'est pas nécessairement militairement venir. C'est vrai que bon, c'est bon de lutter militairement parce qu'on parle, c'est quand même des gens occupés une partie du territoire. Mais en amont, ce qu'il faut faire, c'est investir dans les communautés, ne penser à eux, construire des infrastructures. Tant qu'on ne fera pas ça, on peut essayer de combattre mille fois le terrorisme. Tant que le terrorisme trouvera un terreau fertile de pauvreté, le terrorisme s'installera là-bas durablement et les armes n'y pourront rien.
Comme le Mali, je pense qu'ils doivent déjà régler leur situation géopolitique. Par exemple, organiser des élections parce que c'est le fait non seulement de n'avoir pas un gouvernement, d'avoir un régime de la junte militaire qui fait déjà qu'il y a déjà toute cette insécurité. Mais je pense qu'ils peuvent remédier à tout cela s'ils arrivaient déjà à régler leur situation géopolitique.
Il faut que l'on ait un allié qui puisse encadrer nos forces de défense et de sécurité qui sont parfois faibles face à cette forme de terrorisme-là qui bénéficie parfois, on le sait, de financements venant de l'étranger, des pays arabes et qui s'en suivent.
Le principal problème de la CEDEAO, c'est qu'elle est toujours en retard par rapport à ce qui se passe dans la sous-région. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal que ce soit l'armée française qui débarque au Mali pour combattre les terroristes, alors que la CEDEAO, qui est constituée de militaires avec des 15 pays, laisse le Mali à sa disposition. C'est-à-dire que la CEDEAO allait laisser le Mali être en Bamako, être envoyé pour les terroristes sans rien faire. La seule fois où la CEDEAO est intervenue, c'est au Libéria pour combattre Charles Taylor. Et c'est dans le cadre de ces dossiers politiques. Ce qu'il faut faire, c'est que les États doivent être solidaires entre eux. Mais ça ne se réalisera pas tant que les États chercheront à combattre certains de leurs États par rapport aux intérêts. Tel pays ne m'est pas favorable, tel pays est pour la France, etc. Nous, Africains, ce qu'il faut faire, c'est que nous devons être solidaires.
Nous n'avons pas oublié donc notre audience ici en studio. C'est maintenant votre moment, votre tour de réagir. Êtes-vous confiant pour l'avenir du Sahel?
Nous sommes une association, nous avons 6 nationalités parmi nous. Nous sommes du Sénégal, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée. Nous avons parmi nous une membre, elle est du Burkina. Et qu'est-ce que nous avons eu un projet au Burkina, ce que
c'est
nous avons
vous
fait,
du micro.
C'est nous rapprocher des populations déplacées. Nous avons essayé nous avons aidé les femmes à avoir des petites activités génératrices de revenus. Et aussi, on a aidé les enfants qui ont perdu leur papier d'état civil à les reconstituer. Et nous avons aussi essayé de mettre certains enfants dans des écoles. Moi, je pense que le dernier élément que vous avez montré ici, c'est ça. Il faut écouter les jeunes. Il faut écouter les jeunes parce qu'ils sont jamais à la table là où on prend les décisions. Les jeunes de l'Afrique, ils sont tous politisés. Ils savent ce qui se passe et ils en ont contre les adultes. Moi, je viens du Sénégal. Nous perdons des milliers de jeunes en mer. Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont? Parce qu'ils ne veulent plus rester chez nous et ils font les procès des adultes. Pour eux, l'élite en costume, l'élite en tailleur, les politiciens, les marabouts se sont emparés du pouvoir. Donc, on ne pense plus à eux. Donc, je pense qu'il va falloir revoir la question de l'éducation. Dans tous ces pays, si on occupe les jeunes, ils ne seront pas des terroristes. Si on essaie de revoir les relations entre les communautés, nous vivons ensemble en communauté depuis des années, depuis des millénaires. Comment ça se fait que tout d'un coup, on s'entretue? C'est parce que le politicien quelque part, le président quelque part, l'élite quelque part est venu semer le désordre. Et nous sommes tombés dans ça. Où sont nous avons aussi nos conseils, nous avons nos sages. Donc je pense que le problème de l'ethnie, de se battre contre l'autre ethnie est un problème. Voilà le problème en Afrique. On ne se bat pas contre l'étranger qui vient, contre le blanc qui vient. Mais mon frère africain qui est Djoula ou qui est Peul ou qui est Soudinké, je peux le détruire. Je pense que le problème est très sérieux. On pense toujours que c'est l'étranger. Mais en nous-mêmes, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à vivre ensemble? Est-ce que nous sommes prêts à travailler ensemble? Vous prenez un peul. Vous prenez une autre ethnie qui est quelqu'un d'autre qui est agriculteur. Mais essayez de les aider sur place. Que le peul puisse avoir des plantes fourragères, que l'autre puisse avoir de l'eau et de bonnes semences. Ça ne va pas créer de la jalousie entre les deux. Et c'est ce qui passe aussi. Même si vous allez en ville, celui-là mange, l'autre ne mange pas. Celui-là a une Mercedes rutilante, l'autre il a 10 enfants dans la même chambre. On a des problèmes en nous-mêmes. Et c'est l'argent des fois. Jusqu'à la personne qui a de l'argent montre son argent de manière très indécente. La personne a un mansion au milieu d'un taudis. Je pense qu'en nous-mêmes, il faudrait qu'on revoie le truc civisme, le civisme. Il nous manque du civisme, c'est le béaba. Et c'est comme ça que nous avons tous grandi. Le voisin, il est plus important que ton propre père. Parce que quand quelque chose se passe, c'est le voisin qui te sauve. Quand ta case brûle, c'est le voisin qui te sauve. Donc nous avons ce problème-là entre nous déjà, Africains, dans le pays déjà, dans la même rue. Et je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'il faut revoir les jeunes parler aux jeunes, créer de l'emploi, créer des centres de métiers, revoir l'éducation, ne plus apprendre à l'école primaire l'histoire et la géographie de France. Il y a des choses que vous, l'élite, il y a des choses de base que vous devez revoir.
Karine, la société civile, les jeunes.
Mais je ne peux rien redire sur ce que ma sœur vient de dire. Je pense qu'elle a absolument raison. Je pense que l'avenir appartient aux jeunes. Je pense que le présent est façonné par les femmes et les mères qui préparent justement cette jeunesse à prendre son destin en main. Je pense que les femmes ont un rôle prépondérant, crucial à jouer. La société civile, mais c'est qui la société civile ? C'est justement ces groupements de femmes et de jeunes. C'est le Ballet Citoyen, il y en a marre, c'est la Ligue des Droits de l'Homme, c'est l'Observatoire, c'est tout ça. C'est ces organisations qui s'occupent justement des différentes facettes de notre vie sociopolitique, de la vie sociopolitique dans ces pays. Mais il faut aussi, pour que justement ces sociétés civiles puissent fonctionner de façon effective, pour qu'elles aient un impact, faut une volonté politique. Et c'est là où l'élite vient en jeu. C'est là où les présidents et ces blocs régionaux ont un rôle à jouer. Il faut un cadre pour cela. Il faut un cadre qui est apaisé, qui est sécurisé, qui est démocratique. Et donc j'en reviens à je me suis rappelé d'un incident il y a quelques jours où il y a eu une manifestation à Dakar et puis il y a eu une manifestation en contrepoids devant l'ambassade du Sénégal à Ouagadougou. Il faut qu'on ait le courage de dénoncer ce qui n'est pas acceptable en parlant de solidarité africaine. Lorsqu'on parle de souveraineté, de panafricanisme, il y a des leçons dont on n'a plus besoin parce qu'on le sait. On sait que le blanc nous a colonisés. On sait qu'on a connu l'esclavage et on sait qu'ils nous ont divisés. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance? Est-ce qu'on la manipule? Que faisons-nous? Et l'élite africaine aujourd'hui...
C'est une très bonne question, Karine. Nous allons...
Allez, nous avons les réponses.
Oui, messieurs.
Je pense avoir entendu toutes les interventions. Mais moi, je pense que la réalité, c'est que la démocratie à l'occidentale a échoué en Afrique. Et il faut qu'on se désespère. Maintenant, je suis très content que mon ami et voisin, M. Kodieu, sur le plateau, il vient de nous dire qu'il a, il a conçu une nouvelle organigramme politique. Et comment est-ce qu'il peut diffuser ça? Et comment est-ce qu'on peut aller... on peut amener ça au niveau des gouvernements africains. Parce que ce que moi je pense, c'est que le problème africain aujourd'hui, c'est de revamp, de créer une nouvelle, de nouvelles structures politiques. Et ça doit se baser sur la solidarité africaine. Parce que ici, il y a des Africains de plusieurs pays. La seule chose que j'ai constatée, piquée dans ceci, c'est que la solidarité. Du Togo, du Bénin, un peu partout, la solidarité africaine est unique et originaire. Donc, je pense que si on peut trouver quelque chose basé sur la solidarité africaine, ça va être bien. Merci.
Oui, merci. Monsieur Cissé, très rapidement, en quelques secondes, est-ce que c'est le système qui a échoué ou c'est un manque de transparence dans notre système?
Il y a un manque de transparence, absolument. Il y a un manque de contenu réellement africain. Ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'il faut libérer la jeunesse africaine. Il faut libérer les institutions africaines pour qu'elles aient un contenu vivant. Ces institutions-là doivent refléter les valeurs africaines. Il n'y a jamais eu de conflit entre les ethnies africaines. Le fait qu'il y en ait aujourd'hui est le produit de la colonisation récente. Je sais que les gens sont un peu réticents de parler des étrangers, mais on est obligé d'en parler parce que c'est le cas que nous avons vécu. Quand on enlèvera cela, il y a la substance africaine qui est là-bas en latence, qui va prendre le devant. Il y a aussi une chose, c'est de voir que nos institutions dépérissent parce qu'elles ont été envahies par des valeurs étrangères. Quand vous voyez la CEDEAO, elle ne reflète plus cette idée de solidarité africaine ayant mis des sanctions sur le Mali, le Niger, le Burkina, au-delà de ce qui est fraternel. Et que vous voyez que des pays comme le Mali, le Burkina, le Niger vont même jusqu'à quitter. Voilà, honnêtement, une voie de solution à regagner de vigueur, à donner de la vigueur à
nos institutions. Il nous reste une minute à partager. Voilà. Monsieur Kodjo, d'abord vous et puis Madame Karine.
Je rebondis sur l'intervention de mon voisin. 20 années dans l'armée béninoise, j'ai servi au Libéria dans la guerre civile. J'étais, j'étais fâché de voir, frustré de voir ce que j'ai vécu. J'aurais pu choisir aussi la voie du coup d'État. J'ai choisi de faire un doctorat. 6 années pour comprendre les causes des guerres civiles. Et c'est ça qui m'a conduit à Consankrassi. Donc c'est pour dire les solutions sont là. Malheureusement, nos gouvernements, ça ne les intéresse pas. Donc quand moi j'ai mis Consankrassi sur la table au Bénin, les gouvernants ont pioché ce qui les arrangeait.
Merci, monsieur Kodjo.
Donc, il nous faut, nous, de
merci,
la diaspora,
Karine,
pour pousser au changement.
Vous avez 30 secondes, s'il vous plaît.
Merci. Un grand merci pour cette discussion. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas chercher des boucs émissaires. Parce que chaque époque nous amène un nouveau bouc émissaire. Et je pense que le discours du panafricanisme d'aujourd'hui, que nous tenons en tant que citoyens et que certains leaders tiennent, nous devons vraiment faire attention. Parce que le panafricanisme fait l'apogée de la vie, de la liberté. Mais aujourd'hui, on a l'impression que lorsqu'on parle de panafricanisme, c'est autour de la restriction des libertés individuelles au nom de la souveraineté. Et ça, il faut, avant que l'on parle de concepts et de systèmes démocratiques, nous devons faire très attention au discours qui mène justement à cette substance
c'est
dont on parle.
Sur cette note positive que nous mettons un terme à cette émission. Tout est bien, qui finit bien. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale consacrée aux défis complexes et interdépendants auxquels la région du Sahel est confrontée aujourd'hui. Vous venez de le souligner, la situation au Sahel reste précaire, mais des efforts continus et coordonnés au niveau local, régional et international sont essentiels pour stabiliser la région et améliorer les conditions de vie de ses habitants. Karine Kadeza Nantulia de Human Rights Watch, merci beaucoup. Juste Kodjo, ancien officier de l'armée du Bénin, merci beaucoup. Amadou Cissé, ancien de la Banque mondiale, à vous, chers téléspectateurs, merci de votre contribution et de votre attention. À bientôt pour une nouvelle émission. À la prochaine.
Salut Jenny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous,
c'est vous,
c'est nous,
c'est vous et nous.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture, nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. C'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.